Qu'est-ce qu'on nous a dit de cette journée? On va voir tout de suite. Comme le soir était arrivé, lorsque le soleil fut couché, on amenait auprès de lui tous les malportants et les démoniaques, nous dirions aujourd'hui les aliénés, hein, ceux qui ne sont pas libres. Et la ville entière, oui, quelle vision extraordinaire, était rassemblée tout près de la porte. On est là juste à la porte, la ville entière. La ville entière se trouve à la porte, quelle porte? De la belle-mère de Pierre. La porte de nos maisons, où il y a des malades. Et tous les malades viennent. Il est proche. Et la porte, ça pourrait pas être lui? Hein? Bah, chez Saint-Jean, il est la porte. Et il soigna de nombreux malportants, atteints de maladies variées. Souvent, hein, on traduit guérir. Et dans la première édition que nous avions faite de Saint Matthieu, j'avais traduit toujours par guérir. Il y a deux verbes en grec, il y a thérapeuen et il y a iastai. Thérapeuen, c'est soigner, c'est faire une thérapie. Ça peut prendre du temps, des années, une vie. Tandis que guérir, c'est quelque chose de plus immédiat. Et il soigna de nombreux malportants, atteints de maladies variées, et il chassa de nombreux démons, et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était, lui. Il ne faut pas trop savoir. Hein. Quand on sait trop, ça va mal. Parce que quand on sait trop, on croit qu'on sait. Et quand on croit qu'on sait, on sait mal. On ne sait plus bien. Le vrai savoir, c'est celui qui se met constamment à l'école et qui ne croit jamais qu'il a fini de savoir. Voyez, si je croyais savoir l'Évangile, je ne viendrais pas. Mais j'ai besoin de le recevoir de vous. Et ça, c'est nouveau. Tiens, le soir fut couché, et au matin. Ça va vite. Les journées passent vite. Et au matin, tout à fait à la nuit noire, on est encore à 3h du matin, là. Hein, se levant, il sortit. On sort aussi beaucoup, hein. Les démons qui sortent, et lui qui sort. Et il s'éloigna vers un lieu désert. Et on retrouve le désert. Et là, il priait. Qu'est-ce que prier, sinon faire le vide? Et Simon le poursuivit. Et ses compagnons. Et ils le trouvèrent. Et il lui dit, pas tous te cherchent. Allez, t'as du succès. Maintenant ça va bien, c'est bien parti. Hein. Il leur dit, allons ailleurs. Laissons. La graine semée, il croit en la graine. Donc allons ailleurs. Dans les bourgades attenantes, afin que là aussi, je proclame, car c'est pour ceci que je suis sorti. Jésus sort vers le Père pour aller prier. Jésus sort vers les hommes pour les rencontrer et pour les purifier. Une journée de Jésus, c'est tout simple. Il est parole, parole qui guérit, parole qui chasse les mauvais démons de nos cœurs, les peurs, Et il vint en proclamant dans le synagogue. On avait commencé dans une synagogue, on continue. On parcourt les synagogues, c'est-à-dire les endroits où la société religieuse, la société de l'époque, des bien-pensants de l'époque, se rassemble. Dans la Galilée entière, une image du monde, et en chassant les démons. La liberté chasse les aliénations. Laissons-nous habiter par la présence divine, et le démon s'enfuira. N'ayons pas peur de lui. Sa parole est plus forte. Et vient auprès de lui. Ah, il était venu rencontrer les hommes là où ils se rassemblent. Et maintenant, vient auprès de lui, venaient déjà vers la porte tous ceux qui étaient mal portants. Et vient auprès de lui. Ah, on avait dit tous. Et maintenant, un. C'est que chaque un que nous sommes est aimé et peut être purifié ou guéri par lui. Un lépreux, bon, c'est bien sûr une maladie de la peau. Ça apparaît comme cela. Mais dans la Bible, la lèpre, c'est une défiguration de l'être. Défiguré. Les lépreux sont des défigurés. Donc, ils n'expriment plus dans leur figure l'image de Dieu. Et c'est cela que symbolise la lèpre. Et c'est pourquoi on n'est pas guéri de la lèpre, on est purifié de la lèpre. Il faut retrouver cette pureté de l'image de Dieu en nous, les lépreux. Nous sommes des lépreux dans la mesure où nous n'exprimons plus dans notre vie cette présence divine purifiante. Il vient auprès de lui, un lépreux. Et le suppliant et tombant à genoux, lui disant, si tu veux, tu peux me purifier. Tu peux me faire retrouver ton image. Et le mot, d'après les différents... les différents textes grecs que nous avons, peut vouloir dire irrité ou bien ému de compassion. Étendant la main, il le toucha. Toucher un lépreux, interdit. Interdit. Parce que il est dangereux, le lépreux. Il peut me contaminer. Mais Jésus peut contaminer de sa purification à lépreux. Il inverse. Vous voyez, ça c'est la liberté de Jésus, inverse la manière de voir les choses. Au lieu de voir les choses à partir de nous, il nous les fait voir à partir de lui. Étendant la main, il le toucha et lui dit, je le veux. Soit purifié. Il reprend la demande de l'homme. Et l'ayant rudoyé, aussitôt il le chassa. Mais lui dit, vois, ne dis rien à personne. Ce que tu es en train de vivre est trop intérieur. Il faut d'abord que tu le vives profondément en toi avant de pouvoir parler. Ne va pas crier à tue-tête. Ne prends pas un micro. Ne t'affiche pas à la télé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une purification intérieure. Il le chassa et lui dit, « Vois, ne dis rien à personne, mais pars, montre-toi au prêtre et apporte au sujet de ta purification ce qu'a prescrit Moïse en témoignage pour eux. » C'est-à-dire, rends grâce à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te guérit. Celui-ci étant sorti, comment ça ? Commencement de la bonne nouvelle. Et voilà le commencement de la bonne nouvelle qui nous était adressée. Et bien maintenant, ce commencement est passé dans le lépreux purifié. Celui-ci étant sorti, commença à proclamer beaucoup et à divulguer la parole. La parole, c'est Jésus. Il est redevenu saint, il redevient image de Jésus. Il redevient parole. De sorte que lui, c'est-à-dire Jésus, ne pouvait plus entrer manifestement dans une ville, parce qu'on sautait dessus, hein. Mais il se trouvait dehors, dans les lieux déserts, et on venait auprès de lui de partout. Ce n'est pas un mouvement de masse que Jésus désire. Le mouvement de masse est trompeur, parce qu'on lui fait de la propagande. Or, vous voyez bien que tout est centré dans ce premier chapitre sur une journée de Jésus à Capharnaüm, tout est centré sur l'intériorité, le changement profond de l'être qui était aliéné, de l'être qui était impur, c'est-à-dire divisé, et qui est purifié de l'intérieur, parce que la parole vivante, Jésus, est entrée en lui. Nous exposer à cette parole de vie. Tiens, c'est une journée de Jésus, ou une de nos journées ? On dirait que la caméra était braquée sur lui, et voilà que la caméra se braque sur chacun de nous. Lui devient lumière, lui devient parole pour chacun de nous. Que nous soyons impurs, aliénés par l'esprit, ou bien que nous défigurions, que nous caricaturions la présence de Dieu dans nos visages qui ne respirent pas la joie de Dieu. Vous avez d'abord une simple traduction de l'Évangile dans la revue Bonne Nouvelle, simplement un texte de l'Évangile, tout simplement avec quelques petits encadrés, quelques livres. C'est un des premiers numéros, je pense, oui, c'est en 1980, pour ceux qui ont la série, juillet-octobre 1980, la troisième année de Bonne Nouvelle. Ils ont donné l'Évangile de Marc in extenso, une première chose. Une deuxième chose, c'est dans les dossiers de la Bible, vous connaissez peut-être cela, les dossiers de la Bible, Saint Marc, une présentation très rapide, bien faite, mais c'est très rapide. Le numéro, c'est en septembre 1987, vous voyez, c'est encore ancien. Maintenant, il y a Biblia, qui, je ne sais pas où il en est, Biblia qui doit certainement, à un certain moment, présenter l'Évangile de Marc. Vous avez alors, dans la collection La Bible et son message, ça c'est les dossiers de la Bible. Ici, la Bible et son message, il y a aussi toute une présentation de l'Évangile de Marc. Ce sont des numéros
de 122 à 135. Là, c'est une présentation, d'abord des différents évangiles, et puis de l'évangile, il y a déjà pas mal sur les différents évangiles, et puis l'évangile de Marc. C'est parce que ça se trouve dans différentes bibliothèques, et c'est souvent caché que je vous cite cela. Vous pouvez parfois l'exhumer, et il y a de très bonnes choses, même si c'est un peu ancien. Bon. Alors, plus récent, dans une série des éditions du Livre ouvert de Ménil Saint-Loup, vous avez trois commentaires de la Bible sur l'évangile de Saint-Marc. Dans la collection qui s'appelle « Le livre ouvert ». Alors ceci, c'est plus récent. Cela date, s'ils la mettent, je n'ai pas toujours su, 1997. Hein, l'évangile de Marc, un cheminement spirituel. Un, deux, trois. Voilà, petit fascicule, mais ce sont de bonnes présentations de l'Évangile. C'est donc assez rapide tout de même. Alors, ceux qui ont ou qui n'ont pas, celui que j'ai écrit il y a un certain nombre d'années, 74, la bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc, peuvent trouver, résumé par Pierre Mourlon-Bernard, dans les éditions Lumen Vitae, les mêmes, dans la collection Le Temps de lire, vous avez Saint-Marc. C'est pratiquement le même contenu, mais en plus condensé. Ce sont les présentations les plus simples. Ne vous en faites pas, je vous en présenterai encore, c'est pas fini, il y en a beaucoup. Je vous ai dit qu'on écrivait beaucoup. Alors, un des premiers commentaires, qui ont paru sur l'Évangile selon Marc, c'est les numéros 1 et 2 de la collection Évangile. Donc, un numéro double, 1 et 2, de Jean de Lorme. Je les laisse généralement ici, donc vous pouvez les consulter, mais de grâce, remettez-les si vous le voulez bien. Donc voilà, cahier évangile numéro 1 et 2, donc cela date déjà aussi de quelques années, je ne sais pas s'ils mettent l'année, après cela ils l'ont mis de façon régulière, mais ici, je ne vois pas qu'ils l'aient mis. Non, je ne vois pas le millésime indiqué.
1972.
Novembre-72. Moi, j'ai encore un tout début, donc ça n'y est pas encore. Voilà. Donc, ça, il y a une reprise, mais c'est un autre, celui-là. Je ne l'avais pas à disposition. Tu peux me le passer une minute? Ah, tu l'as vu. Ce sont des lectures, nouvelles lectures de Guy Bonneau, mais je vous reparlerai de Guy Bonneau. Nouvelles lectures. Et là, vous avez aussi une présentation de l'Évangile assez rapide. Donc, c'est dans la même collection des cahiers d'Évangile, numéro 117. Donc c'est tout à fait récent cela, c'est en septembre 2001, avec en prime la photo de Guy Bonneau. Voilà, donc ce sont parmi les choses simples sur l'Évangile. Et je vous recommande encore, ce dont je vous parlais ce matin, ce petit livre, de Carlos Mesters, qui a l'avantage de vous mettre en plein dans la situation politique, économique, sociale, religieuse de l'époque de Jésus. Avec Jésus à contre-courant. Et ce qu'il met bien en évidence, c'est combien cette situation politique, religieuse, sociale, était oppressante pour l'homme, soit du point de vue religieux, parce que l'homme ne se trouvait pas libre, il était coincé, non pas seulement par la loi, mais par une certaine manière de voir et de pratiquer la loi. Il était coincé aussi sur le plan politique, parce qu'on n'était pas libre, et depuis longtemps, on n'était pas libre. On avait eu d'abord comme conquérant, après être passé par les Assyriens, les Babyloniens, on avait eu la Perse, où on avait commencé par respirer, puis on avait eu les Grecs, et au début aussi ça allait très bien, les Grecs comme les Perses étaient assez tolérants, mais petit à petit, surtout à l'époque des Maccabées, d'Antiochus IV Épiphane, on avait vraiment subi la persécution. Et il y avait eu une guerre de libération avec les Maccabées. Mais cette histoire des Maccabées avait fini au fond de façon triste, parce que c'était les grands prêtres qui avaient pris le pouvoir royal, qui dépendait d'ailleurs de Rome, hein, et justement Carlos Mestos dit, c'est comme si le président des États-Unis élisait le pape. Enfin, c'est une transposition, mais c'est un peu, il y a quelque chose de cela. C'est le pouvoir politique qui élisait en quelque sorte le pouvoir religieux. Donc, on était aussi coincé d'un côté comme de l'autre. Et puis après les Grecs, c'était les Romains. Et ça n'allait pas mieux. De telle sorte qu'il y avait toujours un climat d'oppression et il y avait toujours un peu partout, comme le décrit très bien Flavius Joseph, il y avait toujours des tentatives d'insurrection pour essayer, comme nous le vivons encore aujourd'hui, de mettre l'homme au cœur de la société. L'homme, la réalité humaine. Et donc, il y avait des tentatives de libération intérieure. Et c'est dans ce climat-là que Jésus vient avec une tentative parmi d'autres, c'est comme ça que ça a pu être vu, une tentative de libération de l'homme. Et c'est pourquoi il parle d'une bonne nouvelle et il va parler, nous n'avons pas encore vu cela de façon concrète, il va parler du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux, non pas un royaume extérieur. On a vu que la royauté en Israël s'est soldée par un échec. La royauté qui semblait bien partie avec David et Salomon, cette royauté s'est effilochée petit à petit et a terminé en fiasco. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus de peuple, il n'y avait plus d'unité. Et donc la royauté, comme les autres nations, comme on le dit constamment dans les textes, être roi comme les autres nations, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir, et où l'on prend finalement le pouvoir comme une idole, cette royauté-là ne tient pas. Et ça s'est terminé par l'exil. Et donc ça fait réfléchir le peuple. Qu'est-ce qui peut véritablement libérer l'homme? Et voilà que Jésus apparaît comme quelqu'un qui tente cette libération. Non pas avec un pouvoir politique, mais simplement avec une réalité intérieure. Un esprit saint, c'est-à-dire un esprit qui vient de la sainteté même de Dieu. Un esprit enraciné dans la réalité concrète humaine. Un esprit qui touche l'homme et qui le libère. Et nous avons vu que l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prophètes, représenté par Jean le Baptiste, cède la place à cette nouveauté, à cette bonne nouvelle qui vient, à ce bain d'Esprit Saint. Et l'entrée en matière de Jésus est présentée comme quelqu'un qui appelle des gens avec lui, il n'est pas seul, il appelle et il commence à constituer un réseau de disciples. On n'est pas seul. Et à peine constitué ce petit réseau de disciples, c'est-à-dire quatre personnes, mais quatre, ce sont les quatre points cardinaux. Donc c'est une ouverture sur le monde entier. Eh bien, on va vous montrer comment il rencontre l'homme. Ben, il rencontre l'homme là où il est. Où se rassemble-t-on? Ah, le lieu de rassemblement est la synagogue. Il le rencontre à la synagogue. Et que fait-il à la synagogue? Il purifie intérieurement. Il y a déjà une opposition à sa parole. Et de sa parole, nous ne savons rien d'autre que c'est une parole d'autorité. C'est-à-dire une parole qui libère. Il libère un homme à la synagogue, chacun d'entre nous, dans notre synagogue quotidienne ou hebdomadaire, et il attire. Mais on voit d'où vient cette puissance qui sort de lui, qui touche, qui guérit la belle-mère de Pierre, qui peut guérir tous ceux qui s'assemblent devant la porte. Cette puissance de guérison, cette puissance libératrice, elle vient essentiellement de la prière. Jésus est celui qui fait le vide. Il rencontre son Père. Tout le monde te cherche. Allons ailleurs. C'est paradoxal. Tout le monde te cherche, donc il va être à un chacun? Non. Il s'en va ailleurs. Et alors qu'il purifie un lépreux et qu'il lui rend sa capacité d'être image de Dieu, il restitue un lépreux dans son intégrité intérieure, alors que le lépreux était mis au banc de la société, il ne pouvait pas faire partie de la société parce qu'il risquait de contaminer la société entière. Jésus le touche. Et puis c'est Jésus qui se met en quelque sorte à l'écart. Le lépreux est au fond l'image de celui, souvent nous-mêmes, qui nous fermons aux autres, qui restons en quelque sorte fermés sur nous, emprisonnés en quelque sorte par nous-mêmes. Nous ne voulons pas entrer dans le réseau des communications. Et nous nous fermons sur nous-mêmes, sur notre acquis, comme ce lépreux. Et voilà que cet homme est remis à la société. Hein, vous voyez ce que ça signifie, un homme qui est rendu à la société. C'est-à-dire qu'il doit reconstruire des relations. Lui qui était, banni de la société, il doit reconstruire des relations avec tout un chacun. Et ça ne va pas tout seul. Et c'est Jésus, lui, qui, en quelque sorte, prend sa place et se met à l'écart. Non pas du tout pour s'isoler, mais il devient un point de ralliement. On vient le trouver. Car il y a deux manières d'être seul. On peut être seul, isolé, enfermé sur soi-même, et c'est un peu ce que l'Évangile nous dit, comme un lépreux, et on peut être seul avec les autres. C'est-à-dire une solitude qui ouvre, une solitude qui est non pas isolement, non pas isolation, mais une solitude qui est intériorisation. Présence à Dieu et donc présence aux autres. Et voilà, sous le couvert d'une journée de Jésus à Capharnaüm, dans le Capharnaüm de chacune de nos vies, Voilà une proposition de l'Évangile. Est-ce que tu veux entrer dans ce royaume de Dieu qui est en train de se constituer avec toi? Tu n'es pas en dehors. Avec toi. Donc voilà où nous en sommes. Ça semble très beau, ça semble idyllique, mais attention, c'est concret. Et donc, si la parole de Jésus guérit, est-ce que notre parole guérit? Est-ce que notre parole fait du bien? Est-ce que notre parole édifie? Alors, toutes sortes de questions qui se posent à partir de cet évangile dans lequel nous sommes entrés, en nous laissant baigner par l'Esprit Saint, eh bien, cette autorité de Jésus qui était manifeste commence à être controversée. Et c'est le deuxième volet de cette première partie. La parole atteint l'homme, mais l'homme s'oppose à la parole. Ce n'est pas si simple. La parole de Jésus n'agit pas comme une baguette magique. Elle demande la collaboration de l'homme. Et pour que l'homme puisse collaborer, il faut qu'il dépasse ses réticences, ses oppositions et ses refus. Et voilà. Chapitre second. Étant entré de nouveau à Capharnaüm. C'est bien dit, hein? Étant entré de nouveau dans notre intérieur chaotique, dans notre société, celle d'aujourd'hui, ou pas aller chercher ailleurs. Après quelques jours, on a pris, il est à la maison. À la maison. C'est quoi la maison de Jésus? Il me semblait, on n'en a rien dit, si on a dit que c'était Jésus de Nazareth. Mais la maison de Jésus, ça ne semble pas être Nazareth. La maison de Jésus, ça semble être Capharnaüm. Et peut-être même la maison de Pierre. C'est déjà une allusion à ce qu'a été la première communauté à Capharnaüm, que l'on appelle aujourd'hui, hein, on a essayé de retrouver cette maison de Pierre qui s'est appelée peu après la mère église, sur laquelle maintenant on a édifié une sorte de basilique moderne en hauteur, mais dominant les ruines. Pour laisser les ruines intactes, c'est le père Corbeau, le père franciscain, qui a fait cela, qui a imaginé cette manière de retrouver les vestiges anciens sans les incorporer dans un bâtiment moderne. On a pris, il est à la maison. La maison de Jésus, c'est notre Capharnaüm. C'est l'endroit où nous habitons. Il habite là où nous habitons. Et beaucoup s'assemblèrent, de sorte qu'il n'y avait plus de place, pas même auprès de la porte. On s'assemblait au chapitre précédent, on s'assemblait près de la porte, là il semblait qu'il y avait encore de la porte, là il y avait encore de la place. On avait mis à l'extérieur un grand écran pour que l'on puisse voir, comme on fait maintenant dans les églises, quand il y a trop de monde, pas même auprès de la porte. Il n'y avait plus de place. Et il leur parlait la parole. De nouveau, nous sommes frustrés. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait? Mais la parole. Il leur parlait la parole. Et on vient. On vient en amenant auprès de lui un paralytique soulevé par les quatre. Ou par quatre. C'est drôle, hein? Un paralytique soulevé par les quatre. On le porte à brancard, il suffit de quatre personnes. Mais les quatre, on en a déjà vu quatre, hein?
qui symbolisait déjà toute une communauté. Le membre faible de la communauté, on s'en soucie et on le porte à Jésus.
Et ne pouvant le lui apporter en raison de la foule, puisqu'il n'y a plus de place, ils découvrirent le toit, là où il se trouvait. Là où il se trouvait, dans la maison. Il faut de temps en temps qu'il découvre notre toit. Hein? Et nous voudrions bien qu'il n'entame rien. Et ayant creusé un trou, il laisse glisser le grabat là où le paralytique était couché. Un paralytique soulevé, un paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir, qui n'est pas libre. Donc, un paralytique soulevé par les quatre, un paralytique couché, voilà de quoi on nous parle, et voyant leur foi, la foi de ces quatre, qui portent un paralytique et qui trouvent le moyen de le faire descendre par un trou jusqu'au devant de Jésus. Enfant, tes péchés sont pardonnés, littéralement sont laissés. Bon, jusqu'ici, tout va bien, semble-t-il. À part le trou fait dans le toit. Mais on ne parle pas des dégâts, hein, si vous remarquerez. Enfant, tes péchés sont pardonnés. Curieuse manière de guérir un paralysé. Ah oui, mais c'est que la paralysie est interne souvent. Et que c'est nous qui nous paralysons. C'est nous qui nous emprisonnons. Et nous connaissons aussi, sinon en nous-mêmes, tout autour de nous. Beaucoup de nos enfants peut-être, de nos proches en tout cas, qui se trouvent si paralysés intérieurement. Or, se trouvaient là quelques-uns des scribes. Vous vous rappelez, les scribes, ce sont ceux qui savent, ceux qui connaissent bien leur loi, et qui connaissent bien leur lettre aussi. C'est-à-dire ceux qui voudraient que tout marche comme ils l'imaginent. Il se trouvait là quelques-uns des scribes, assis et réfléchissant dans leur cœur. C'est le cœur qui réfléchit hein, chez les sémites. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Parler de péché. Mais le péché, je vous ai dit, le péché est caractérisé par le manque de réalisme. On n'est pas en communication, on a coupé la communication avec Dieu, et donc aussi avec son semblable, et donc aussi avec soi-même. C'est pour ça qu'on est paralysé. Mais, péché dit toujours rapport avec Dieu. Car si je me condamne, ou si je ne me reçois pas, si je ne m'accueille pas moi-même, je touche Dieu en moi, hein, dans la mentalité juive. Si je n'accepte pas, si je n'accueille pas mon frère ou ma sœur, je touche Dieu en lui ou en elle. Et si je ne suis pas ouvert en action de grâce, je touche Dieu en lui-même. Donc j'arrive pas à le mettre de côté, Dieu. J'ai beau dire, hein, comme le disent les païens dans le psaume, où est-il ton Dieu? Ben, il est là. Mais il faut le reconnaître. Et pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Pourquoi il parle de péché, ce gars-là? Il blasphème. On ne pardonne pas les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner, c'est-à-dire être en même temps atteint par le péché, c'est-à-dire par la malveillance de l'un ou de l'autre, et qui peut passer outre.
Il blasphème.
Qui peut pardonner les péchés?
On sait bien que c'est Dieu seul, sinon l'unique Dieu. Et aussitôt, à l'intérieur même de cette controverse qui commence, de cette suspicion qui se met dans le cœur, va-t'en avec ta religion, avec ta manière de penser? Nous, on ne veut pas entendre cela. Et aussitôt, Jésus, reconnaissant en son esprit, c'est cette présence de Dieu qui est en lui, reconnaissant en son esprit qu'ils réfléchissaient ainsi en eux-mêmes, comme si Jésus était atteint par leur réflexion intime. C'est donc qu'il n'y est pas étranger. C'est donc que Jésus est lui-même présent, même dans celui qui résiste, même à l'intérieur de sa résistance. Il leur dit, mais pourquoi réfléchissez-vous? C'est ce mot qui revient constamment, réfléchir. Pourquoi réfléchissez-vous ceci en vos cœurs? Pourquoi laissez-vous monter ces aspirations, ces refus en votre cœur, ces mises en question, ces doutes? Pourquoi les laissez-vous monter? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou dire, réveille-toi, lève ton grabat et marche. Question qui nous est posée. Nous sommes inertes et paresseux sur notre grabat, c'est possible. Nous sommes là sans plus pouvoir bouger, c'est possible. Nous sommes enfermés en nous-mêmes. Tout cela, ce sont des réalités que nous vivons probablement. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire d'atteindre la cause profonde de ce qui nous tient paralysés, ou bien dire réveille-toi, prends ton grabat et marche. La réponse, c'est au lecteur de l'affaire, ou à la lectrice. Au fond, n'est-ce pas la même chose? Me guérir intérieurement, c'est aussi me guérir extérieurement. Car me guérir extérieurement pour quelques heures, pour que je retombe, ça n'est pas très expédient. Et Jésus continue. Or, afin que vous sachiez, mais savoir, c'est pas seulement avoir dans la tête, savoir, c'est faire l'expérience. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, voilà pour la première fois que Jésus se nomme ainsi. Et cette manière de s'appeler Fils de l'homme pour Jésus est tout à fait significative. Dans les évangiles, il n'y a que Jésus qui s'appelle de cette manière-là. Dans l'Ancien Testament, on parle de Fils d'homme. Un Fils d'homme, c'est un spécimen humain. Un stuckmens, comme on dirait en néerlandais. Un spécimen humain. Je vous ai peut-être déjà raconté que me promenant à Jérusalem il y a 40 ans, un petit gamin qui était avec sa maman et qui, j'étais en soutane kaki ocre à cette époque-là, Et en me voyant, le petit gamin demande à sa maman, « Immi mazé, maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon accoutrement lui faisait poser la question. Et la maman hausse les épaules et dit, « Mais madame, un fils d'homme, c'est un gars, tout le monde. » C'est aussi comme cela que Dieu appelle toujours Ézéchiel, le prophète, « Fils d'homme, lève-toi, mange ce livre, fils d'homme. » Et c'est ainsi aussi que Daniel, dans sa vision, voit au moment où viendra l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire celui que nous appelons le Messie, que Daniel, le voyant, voit venir sur les nuées comme un fils d'homme. Comme il parle araméen, celui-là, il ne dit plus Ben Adam, il dit Barénache, mais c'est la même chose. Il voit comme un fils d'homme venir sur les nuées. Et c'est ce fils d'homme qui sera le test, le jugement de tout homme. C'est le modèle, en quelque sorte. Le modèle de l'homme. Quel est le modèle de l'homme? L'homme envoyé par Dieu. C'est cela que nous dit Daniel. L'homme envoyé par Dieu.